Radio Kapi. En actualité ce matin sur Radio Kapi, c'est le point que nous découvrons sur l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de l'université de Kinshasa ainsi que de l'université pédagogique nationale. Constat du ministre de l'enseignement supérieur universitaire et celui de la communication et médias. Toujours en actualité, ce sont les contingents devant former la force régionale de l'EAC qui affiche maintenant complet avec l'arrivée le week-end dernier de la force de défense du peuple du Sud-Soudan. Affirmation dans ce journal de Uhuru Kenyatta, le facilitateur de l'EAC sur la crise dans l'est de la RDC. Et comme invité en fin de ce journal, nous parlons avec le général Benjamin Alongaboni. Il est le nouveau commissaire général de la police nationale congolaise depuis Bunia où il assumait les fonctions de vice-gouverneur. Notre collègue Isaac Remo l'a rencontré. Dans ce journal, il parle des défis qu'il attend comme premier responsable de la police nationale congolaise. Fidèles auditeurs, merci de choisir Radio Kapi pour votre information. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. À Kinshasa, les travaux de réhabilitation et de construction des infrastructures universitaires se poursuivent sans désemparer. Ces travaux sont financés sur fonds propres du gouvernement sur deux sites, celui de l'Université pédagogique nationale UPN et de l'Université de Kinshasa UNIKIN. Hier lundi, les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire Moindo Zangi et Patrick Muyaya des communications et médias ont visité l'état d'avancement de ces travaux. Paul Matendo, reportage.
À l'UPN, outre les travaux de réhabilitation des hommes et des auditoires, cette université est dotée d'un amphithéâtre d'une capacité de 6000 places. À l'UNIKIN, également, tous les hommes et auditoires sont rénovés. Le Homme 30, lui, est retenu comme village de la francophonie, a expliqué Patrick Muyaya.
Parce que ce site a été aussi choisi pour être utilisé dans les cas de jeu de la francophonie. Vous verrez qu'il y aura les rayonnements qu'il faut. Il y a des travaux d'aménagement qui sont en cours. Il y a des travaux de voirie qui s'effondrent sur 4 km et donc rien n'a été laissé au hasard.
Pour sa part, Jean-Marie Kayembe, recteur de l'UNIKIN, promet de bien gérer ses joyaux.
Et ce joyau, nous devons montrer que universitaires, nous sommes capables, nous d'abord, qui gérons, de le gérer en homme responsable et nos étudiants de l'utiliser pour que les générations futures soient réellement fières.
Benoît Kayembe, directeur général de l'entreprise générale de construction de Kinshasa, sollicite l'accompagnement financier du gouvernement.
L'entreprise seule ne perd rien. Nous avons commencé par un préfinancement. Il faut un accompagnement tel que le gouvernement le fait, mais il faut le faire assez.
Les travaux de réhabilitation de ce homme prendront fin à la fin du mois d'avril courant, a précisé Benoît Kayembe.
Pendant ce temps, la polémique enfle autour de l'érection en cours d'un mur de clôture à l'université de Kinshasa. Pour le comité de gestion, initiateur de ce projet, le but est de sécuriser ce site universitaire contre la pression sociale des populations environnantes et la spoliation de son terrain. Du côté des étudiants, on estime que les fonds déboursés pour réaliser cet ouvrage auraient dû servir à la construction des nouveaux auditoires, vu qu'ils étudient toujours, d'après eux, dans de mauvaises conditions. Samba Dimoutier et Junior Ikassine ce reportage.
Depuis quelques semaines, une grande partie de l'aile de l'UNIKIN qui donne vers le quartier Kindele et Mbanzalemba est clôturée. Pour de nombreux étudiants, l'éruption de ce mur n'était pas une priorité. Ils estiment que cet argent aurait pu servir à construire de nouveaux auditoires, envie d'améliorer leurs conditions d'études. C'est ce que nous dit l'un des étudiants en faculté des sciences.
Ce n'est pas une bonne idée. Pour moi, il faut construire pour nous les auditoires qui ont commencé comme ça à clôturer l'université.
De son côté, Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, indique que ce mur est érigé pour deux raisons d'ordre sécuritaire.
Les questions sécuritaires constituent également des questions primordiales. Donc, nous ne sommes pas en train de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, mais nous sommes en train de résoudre des problèmes à des dimensions multiples qui nécessitent une approche raisonnée en passant par différentes priorités. Les enseignements se donnent, c'est vrai, dans des conditions pas toujours très faciles, mais nous espérons pouvoir, dans un avenir relativement proche, récupérer ou plutôt améliorer ces conditions.
Rappelons que l'UNIKIN dispose de plus de 200 hectares de terre situées entre les communes de Lemba et de Mongafula, en dehors de 480 d'un Djili Brasserie destiné à sa faculté de sciences agronomiques.
Les experts des ministères du développement rural et ceux des affaires sociales réfléchissent depuis hier lundi à Kinshasa sur les normes et standards des infrastructures et équipements collectifs productifs des entités territoriales décentralisées en RDC. Organisé dans le cadre du programme d'urgence intégrée de développement communautaire, cet atelier vient en appui au programme des 145 territoires. Il est question surtout de voir comment répondre aux besoins fondamentaux des populations congolaises se trouvant dans les chefs-lieux des territoires, villages et groupements. Modeste Moutinga, ministre des Affaires sociales, explique au micro de Jean-Marc Matouaki.
Nous devons déterminer qu'est-ce qu'on va faire dans ce reste des entités territoriales décentralisées. Il faut des forages, il faut des dispensaires, il faut des panneaux solaires, il faut de ceci, il faut de cela. C'est ce que nous allons terminer à travers les normes et infrastructures. Il faut un moulin ici, il faut un moulin là-bas. C'est ça, son norme que nous allons déterminer, que nous devons approuver. C'est ce modèle qui va être appliqué aux entités territoriales décentralisées. Et c'est le modèle, nous devons le réaliser. Vous avez certainement étudié, il faudrait que ce soit un modèle rationnel, opérationnel, qui puisse donner l'espoir à la population. Il ne faut pas que la population ait l'impression que le président de la République ne s'intéresse qu'au territoire, pas au village, pas au secteur, pas au groupement. C'est ça la raison de cet atelier.
Sachez que ces travaux ont été lancés par le ministre d'État et ministre du Développement Rural, François Rubotama Sumbuko. Actualité dans la province de la Tchopo, les travaux de construction des ouvrages dans le cadre du projet de développement de 145 territoires ont été lancés le week-end à Isangi, chef-lieu du territoire portant le même nom situé à 125 km de Kisangani, en aval du fleuve. La cérémonie de la pose de la première pierre a été présidée par le vice-gouverneur de province, Paulin Lendongolia. Le point avec Jacques Moukonkole.
Cette cérémonie s'est déroulée devant le bâtiment de l'Agence belge de développement Enabel, en présence de plusieurs personnalités, aussi bien officielles, religieuses que des partenaires techniques du gouvernement. Une occasion pour le vice-gouverneur des provinces d'appeler la population locale à s'approprier ces travaux qui visent le développement des entités, en l'occurrence ici, celle d'Isangi. Paulin Lendongolia l'a exhorté également à protéger les matériels afin que les travaux aboutissent normalement. Rappelons que cette activité avait été décidée en mars dernier lors de l'atelier de validation des infrastructures à réaliser dans la Tchopo. Cela après la signature le 24 février dernier à Kinshasa du contrat d'exécution des travaux de paix d'EL 145 territoires par l'entreprise Safricas qui avait gagné le marché. Guy Verlin Chimanga, coordonnateur provincial du PDL 145T dans la Tchopo, avait déclaré que dans un premier temps, ce sont les bâtiments administratifs, des centres de santé ainsi que des écoles primaires qui doivent être érigés au cours de cette première phase. Et leur livraison est attendue 6 mois plus tard. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Parlons également de ces travaux de construction du mausolée en hommage aux premières victimes de massacres des civils dans la ville de Beni qui sont à l'arrêt depuis 3 mois. Il s'agit des civils tués au quartier Ngadi le 15 octobre 2014 au cours d'une attaque des rebelles des ADF. Selon le président du comité de construction de ce mausolée, les difficultés financières sont à l'origine de l'arrêt de ces travaux lancés le 15 octobre 2022 au cimetière de Massiani dans la commune de Moulekera. Nick Junior Vusindi appelle les personnes de bonne volonté à soutenir cette initiative communautaire. Il est au micro de Guylaine Kassassia.
La construction des mausolées qui était lassée le 15 octobre de l'an passé a connu réellement une mobilisation communautaire de masse où plusieurs ont répondu à cet appel. Et actuellement, nous sommes en train d'évaluer les travaux à 50% parce que nous avons déjà fait 33 tombes qui ont déjà été érigées auprès du site de Massiani. Il reste seulement les travaux de finissage. Une fois que nous trouvons les gens qui peuvent encore se mobiliser davantage pour la finalité de ces travaux, ça va nous faire réellement plaisir. Nous avions prévu les constructions pendant 3 mois. Dès le 15 octobre, on croyait que déjà vers janvier, que nous puissions déjà finir les travaux. Mais nous avons été bités aux problèmes liés à l'ordre financier. Le budget pour la construction était de 16 000 $, tellement que la contribution était à l'ordre matériel. Donc jusque-là, les travaux que nous avons toujours évalués, ça a toujours été à 8 000 $ que nous avons déjà dépassé et nous sommes en train de croire si encore nous tombions sur 8 000 $, ça va en tout cas nous permettre de finaliser ces sites-là de travail.
Sachez que ce projet est une initiative de la société civile, des mouvements citoyens et des groupes de pression de Beni.
En plus bref, le 6 avril, devient jour férié légal en République démocratique du Congo. Selon l'ordonnance présidentielle du 30 mars dernier fixant la liste des jours fériés légaux en RDC, le 6 avril est dédié à la journée du combat de Simon Kimbangu et du combat africain. Ladite ordonnance a été rendue publique hier lundi. Fidèles auditeurs, vous suivez Radio Okapi sur ses différentes fréquences à travers la RDC. Parlons à présent de la force régionale de l'EAC qui est maintenant pleinement déployée comme prévu par le processus de Nairobi, la dernière phase de déploiement étant la force de défense du peuple du Soudan du Sud au cours du week-end dernier. C'est ce qu'affirme Uhuru Kenyatta, le facilitateur de l'EAC sur la crise dans l'est de la RDC, cité par notre consoeur actualité.cd. Selon la même source, la rébellion du M23 s'est retirée des trois agglomérations dans les territoires de Masisi. Il s'agit de Mushaki, Kilolirwe et Kichanga. D'après l'ancien président kenyan, ce retrait a été vérifié par le mécanisme ad hoc dirigé par l'Angola et les mécanismes de surveillance et de vérification de l'EAC. Grâce à Mzati.
D'après le communiqué des Uhuru Kenyatta rendu public hier lundi, dans les territoires de Rutshuru, la rébellion s'est retirée de Bunagana et va quitter la cité de Kiwanja le 15 avril prochain. Au regard de l'évolution de la situation, le facilitateur de l'EAC sur la crise dans l'est de la RDC s'est dit favorable pour l'intégration du M23 dans les processus de Nairobi. C'est important. Ce développement signale également qu'un plus grand nombre de groupes armés se conforment désormais au terme du processus de Nairobi et sont donc de plus en plus susceptibles d'être tous intégrés dans la voie politique du processus de Nairobi à l'avenir. Le facilitateur continuera d'étendre la main à toutes les parties, tant politiques qu'armées, dans ses efforts continus pour aider à ramener la paix dans l'est de la RDC, écrit Uhuru Kenyatta. S'agissant du déploiement des troupes de l'EAC, sachez que le contingent kenyan occupe Kibati, Kibumba et Rumangabo. Les Burundais sont à Sake, Mushaki, Karuba, Kilolirwe et devraient se déployer à Kichanga. Les Ougandais à Bunagana et devraient se déployer à Kiwanja après le retrait des rebelles d'ici le 15 avril.
L'ONG Le Congo n'est pas à vendre exige la préparation rigoureuse, la transparence totale du processus des renégociations et des enquêtes judiciaires sur les actes de détournement des fonds et des pratiques de corruption. Cette structure de la société civile salue la décision du gouvernement de procéder à la révision de la convention sino-congolaise signée en avril 2008 entre le gouvernement congolais et le groupement d'entreprises chinoises GEC relative au développement des infrastructures et à l'exploitation minière. Le Congo n'est pas à vendre a rendu publique sa position hier lundi au cours d'un point de presse à Kinshasa. Quelques recommandations formulées par l'ONG SENPAV, le Congo n'est pas à vendre, en rapport avec la décision du gouvernement de révision de la convention avec Richard Mukena, un des orateurs. Il est au micro de Radio Okapi.
Premièrement, c'est la transparence et la redevabilité. Les citoyens congolais ont besoin de savoir qu'est-ce qui se négocie au niveau de la commission. Est-ce qu'on a des personnes habilitées à pouvoir renégocier cette convention de façon à pouvoir permettre au Congo également d'en tirer profit. Deuxièmement, la préparation technique est adéquate parce que ceci doit permettre en fait à la commission de renégocier les manquements structurels de la convention. Donc nous demandons qu'il y ait un audit technique opérationnel des coûts et de la qualité des infrastructures au niveau opérationnel et au niveau de la mine. Nous demandons qu'il y ait un audit financier des coûts d'investissement et des décaissements des prêts d'infrastructures. Parce que là, on sait qu'il y a eu des décaissements de fonds, mais jusque-là, il n'est pas facile de les tracer. Ces fonds étaient encaissés par qui? Pourquoi? C'est toujours difficile. Voilà pourquoi on demande qu'il y ait un audit vraiment sérieux pour donner la lumière sur toutes ces questions. On demande également la réévaluation des revenus générés par la SICOMI.
Au-delà de ces attentes, le Congo n'est pas à vendre, exige l'ouverture des enquêtes judiciaires sérieuses, transparentes et crédibles sur les actes de corruption et des détournements des fonds. Radio Okapi entame une série de productions sur l'Institut National de Recherche Agronomique INERA. Dans cette première livraison, Emmanuel Elamejua Kabedi nous parle de l'implantation de l'INERA ainsi que de sa mission en RDC.
L'actuel INERA est issu de l'INEAC, Institut National pour la Recherche Agronomique au Congo, Rwanda et Burundi. Créé en 1933 par arrêté royal et il a joué un rôle vital dans le développement économique de la République. L'INEAC avait pour mandat la recherche agricole et forestière sur toute l'étendue nationale du pays. Ainsi, la mission actuelle de l'INERA est de promouvoir le développement scientifique de l'agriculture et de l'élevage en RDC. Au niveau national, l'INERA comprend 5 centres de recherche et 19 stations expérimentales. Citons en passant l'INERA Mulungu au sud Kivu, l'INERA Yangambi dans la Tchopo, l'INERA Nyoka dans l'Ituri et l'INERA Ngandajika dans l'actuelle province de la Lomami. La recherche agronomique appliquée y est organisée en 16 programmes nationaux spécifiques. La plupart des espaces de ces centres sont objets de spoliation de la part des privés et même de certains services publics de l'État. Nous allons commencer par l'INERA Mulungu au sud Kivu. Emmanuel Lamijoa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le secteur du tourisme est en plein essor en Afrique, alors que l'industrie tente de se remettre des dommages causés par la crise du Covid-19. C'est le sentiment exprimé par les exposants du World Travel Market Africa qui se tient cette année au Cap, en Afrique du Sud. Pour Carole Weaving, la directrice de Reed Exhibition Africa, l'édition 2023 est un succès. Le nombre d'exposants a bondi de 35% par rapport à l'année précédente. Et puis, le président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba a présidé dimanche la cérémonie du 55e anniversaire du Parti démocratique gabonais PDG. Alors que certains s'attendaient à ce qu'il se déclare directement candidat à sa propre succession, il est revenu sur son accident vasculaire cérébral survenu en octobre 2018. Avec ses déclarations, le chef de l'État gabonais a donc brisé le silence sur le sujet devenu tabou de son accident cardiovasculaire. Il s'est dit déterminé à poursuivre l'œuvre entamée il y a 14 ans. Et entièrement au service du pays.
L'invité.
Le nouveau commissaire général de la police nationale congolaise, général Benjamin Alonga Boni, a rencontré hier lundi à Bunia une délégation de la MONUSCO conduite par son chef de bureau, Kerna Soro. L'objectif de cette rencontre était de le remercier pour le travail qui a été accompli avec lui en sa qualité de vice-gouverneur. Il parle des défis qui l'attendent dans ses nouvelles fonctions et des acquis en tant que vice-gouverneur de l'Ituri pour la recherche de la paix dans cette province. Le général Benjamin Alonga Boni s'entretient avec Isaac Remoyope. Il est notre invité.
Monsieur le commissaire général de la police en RDC, bonjour. Vous venez d'être nommé récemment cette fonction par l'ordonnance du chef de l'État. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle?
J'ai un double sentiment de joie parce que je suis élevé en dignité, mais aussi un sentiment de tristesse parce que ce que je suis venu faire n'est pas arrivé à terme. Donc les gens avec qui nous devrions composer pour asseoir une paix durable, je les quitte indépendamment de ma bonne volonté. Certaines nouvelles habitudes que j'avais créées ici, je vais pouvoir m'en débarrasser contre ma volonté. C'est quand même un peu frustrant. Mais bon, que faire? Les hommes passent.
Vous quittez la province de l'Ituri sans avoir atteint l'objectif pour lequel vous avez été nommé comme vice-gouverneur, notamment celui d'imposer la paix en Ituri. Quel bilan mettez-vous à votre actif pendant cette période de l'état de siège dans cette province?
Je quitte Ituri avec l'espoir, étant optimiste, que la paix sera recouvrée. Ça, je suis vraiment optimiste. Et cette paix-là, je vous assure, elle n'est pas facile. C'est un processus. Il faut vraiment accepter de casser les œufs pour faire de bonnes omelettes. C'est-à-dire nous désarmer les Ituriens. Quand moi je parle Ituri, je vois tous ceux qui sont en Ituri. Pas les originaires ou les non-originaires, non. Je parle ceux qui sont en Ituri, doivent consentir beaucoup de sacrifices pour que réellement asseoir une paix. Dans une société, vous ne pouvez pas tous voir dans la même... Vous regardez dans la même direction, mais vous ne voyez pas de la même façon. Je voulais dire, je vous donne par une petite anecdote. Lorsque chez moi on jette un filet dans l'eau, vous tirez le filet, vous sortez toutes sortes de poissons. Il y a des poissons électriques, il y a des caïmans, vous avez des serpents et toutes sortes. Et à chaque espèce de poisson ou de l'animal que vous avez tiré de l'eau, il y a une technique appropriée de l'attraper ou de le maîtriser. C'est cela que j'en appelle à ceux qui ont la charge de pouvoir restaurer la paix, de ménager aucun effort pour traiter chaque cas selon la spécificité qu'il faut la traiter, pour le traiter, pour que finalement il y ait harmonisation et la paix soit recouvrée totalement.
Comment appréciez-vous la collaboration entre la MONUSCO et le gouvernement provincial dans la recherche de la paix en Ituri?
Non, mais nous avons toujours collaboré. Nous sommes en bon terme depuis toujours. Pour nous qui travaillons directement avec la MONUSCO, nous comprenons autrement de commun des mortels. Je dirais que nous avons une très bonne collaboration, mais ceux qui ne comprennent pas que, d'abord savoir définir quelle est la mission de la MONUSCO. Si l'on comprend la mission de la MONUSCO, on comprendra facilement qu'il faut collaborer et elle sera étroite. Mais ceux qui ne comprennent pas pensent que parce que la MONUSCO est dotée d'armes et de guerre, en cas de guerre, la MONUSCO va aller engager. Non. La MONUSCO est une force d'interposition, de pacification, pour nous aider. J'ai été pendant 9 ans comme secrétaire général adjoint chargé d'opérations renseignement de la même police et nous avions travaillé en son temps avec la munition dans la réforme. Nous avons au groupe GMMMR, donc c'est la base même de la réforme de la police. Nous avions contribué en tant que commissaire général adjoint en son temps. Et puis la MONUSCO a un mandat avec la République. Et la réforme, c'est un ordre qui a été émis par la République. Donc je vois mal que nous n'avons pas collaboré là. La MONUSCO est toujours la bienvenue.
Quels sont les défis qui vous attendent dans vos nouvelles fonctions en tant que commissaire général de la police en RDC et comment comptez-vous relever ces défis?
Ah, ils sont énormes, hein. On ne sait pas les énumérer, les défis sont énormes. D'abord, la volonté du chef de l'État, c'est un défi. Que veut le chef de l'État lorsqu'il me place à la tête et me confie cette mission? C'est qu'il s'attend à un résultat. Ben, c'est un défi à relever. Aussi de deux, je dois pouvoir remettre l'ascenseur, c'est-à-dire prouver au chef que la confiance qu'il a mise en moi, je dois la lui rendre par ce qu'il attend de moi. Et de trois, je suis humain. La réforme de la police, comme vous l'avez souligné, c'est aussi un défi à relever. On verra si je serai à la hauteur, mais je suis optimiste qu'on n'invente pas la roue. Nous allons travailler, nous allons fournir le maximum de nous-mêmes, mais en conjugaison des efforts. Chacun dans son domaine, on met dans l'ensemble, c'est l'union qui fera la force.
La population congolaise attend beaucoup de vous. Êtes-vous conscient de votre responsabilité pour répondre à ses aspirations de voir une police efficace et professionnelle?
C'est l'espoir qui fait vivre. Et s'ils sont optimistes, ils attendent beaucoup de moi. Avec l'appui de tout le monde, nous arrivons à atteindre l'objectif parce que rien n'est impossible si l'on s'engage. Vouloir ce pouvoir, je veux servir mon pays. Je veux que la police soit réformée. Donc je peux servir et je peux réformer la police, mais alors avec la collaboration de tout le monde.
Messieurs les commissaires général de la police en RDC, le général Benjamin Alongaboni, merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous remercie.
Et voilà comment se referme cette édition de journal. Mesdames et messieurs, nous vous dirons merci d'avoir été des nôtres.